pas de jingle. Alors on enchaîne tout de suite.
Dis donc, toi, t'as des nouvelles pour
Radio Campus Orléans?
Toujours dans sa musique, pourquoi?
Parce qu'on va aller un peu battre la mesure.
Parce que figure-toi que je les connais, ces saloperies-là.
C'est trop compliqué.
La meilleure des fréquences.
Alors t'as bien compris, quelqu'un?
Oui, bien sûr, mais ça serait mieux si tu m'expliquais de vive voix.
88.3 FM.
Et c'est sans doute la chose la plus bizarre de l'univers.
C'est parti, allez!
C'est bien compris. Parce qu'en cas de dislocation, il n'est pas question de demander son chemin à un pécor.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Campus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 octobre. Bonne fête à tous les crépins et joyeux anniversaire à Katy Perry si elle nous écoute. Et joyeux anniversaire aussi évidemment à tous les autres, tous ceux qui sont nés un 25 octobre. Aujourd'hui nous recevrons Morgane Zouabi qui viendra nous parler de la société de production Au Tableau Production. Et Mathéo de l'équipe de Radio Campus nous racontera deux histoires pour Halloween. Et comme d'habitude nous aurons la musique de Radio Campus, de la programmation de Radio Campus. Mathéo, Fatine, comment allez-vous ?
Bien.
Très bien, et toi ?
Bah moi ça va, à l'antenne, on est prêt pour cette interview ?
Yes.
Toujours aussi
toujours prêt.
Et bah c'est parti pour l'interview du coup.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Aujourd'hui, nous sommes en visioconférence avec Morgane Zouabi. Bonjour Morgane, est-ce
bonjour.
Que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et, vous êtes journaliste et membre de Au Tableau Production, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et vous êtes ici pour parler d'un projet de la société dont nous discuterons dans une minute. Pouvez-vous nous approcher un peu de la société Au Tableau Production, de quoi ça s'agit et qu'est-ce qu'elle mène comme objectif?
Oui, bien sûr. Alors, on est une société de production audiovisuelle. On fait du documentaire, des longs formats principalement. Notre but, c'est d'apporter en fait, des solutions concrète à des problèmes de société, de filmer ça et de faire un peu la preuve par l'image que des solutions existent. Donc, c'est de la télé, mais pas que, parce qu'on tente d'avoir des conséquences, d'avoir un impact sur la vie des gens.
Oui, bien. Un des travaux précédents de la société comprenait un documentaire sur une équipe de football. Ça s'intitule 11 de légende. C'est une équipe de football composée d'enfants autistes et non autistes. Donc, dites-nous un peu sur la façon dont cette idée a été formée et les objectifs ainsi que les résultats du documentaire.
Alors, tout à fait. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de faire jouer au foot des enfants qui sont sur le spectre autistique, comme on dit, donc ils sont atteints d'autisme et qui souvent ont des difficultés donc à s'exprimer, à communiquer avec les gens et à être en équipe. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place avec la fondation PSG. Des entraînements entre donc, des enfants effectivement autistes, donc dits neuroatypiques, et des enfants non autistes, neurotypiques. Voilà. On a mis en place des entraînements hebdomadaires et le but, ça a été de voir comment et les enfants autistes et les enfants qui ne sont pas autistes pouvaient tirer bénéfice de cette mise en place. Alors bon, ça a été un peu compliqué parce que déjà, voilà, quand on dit qu'on veut faire jouer au foot des enfants et autistes et non autistes ensemble, ça semblait un peu... une idée très originale, mais on a réussi à mettre ça en place, ça a très bien fonctionné. On en a effectivement fait un film documentaire qui est disponible sur MyCanal et également qui est disponible sur YouTube en intégralité. Et l'entraînement a si bien fonctionné qu'on a eu la visite de différents élus, jusqu'au président de la République qui est venu pour la journée nationale de l'autisme. Et on a d'autres villes de France qui ont pris contact avec nous pour en fait mettre en place cet entraînement dans leur ville, notamment à Cannes, c'est en train de se faire, et d'autres villes sont également en train de développer cet entraînement. Ouais.
Bah, je trouve ça très intéressant et c'est un succès quoi, pour l'intégration des enfants non autistes avec d'autres enfants qui sont de leur même âge. Le prochain documentaire s'intitule La Coloc. Présentez-nous un peu ce projet, c'est quoi La Coloc, ça a l'air intéressant.
Oui, c'est aussi de l'inclusion. C'est l'inclusion et c'est le vivre ensemble. Et donc, effectivement, là, ce qu'on vient de mettre en place, c'est une colocation intergénérationnelle dans le quartier de Saint-Marceau, à Orléans. Notre but, c'est d'apporter une solution aux seniors qui peuvent se sentir parfois isolés socialement et d'apporter aussi une solution aux jeunes qui peuvent être en situation de précarité. Mm-hmm. Donc, le but, c'est d'apporter aux jeunes l'opportunité d'habiter dans une maison avec jardin, d'avoir de grands espaces communs, et pour les seniors, d'avoir du contact avec des jeunes. La maison est faite pour 6 ou 7 personnes. On souhaite qu'elle soit, que le ratio soit 50-50 entre jeunes et seniors. Donc, mm-hmm. 3 jeunes, 3 seniors. On a aussi des combles aménagés pour... en gros, il y a 7 espaces. On aimerait 6 personnes dans la maison, mais il y a de la place pour 7. Mm-hmm. Et on essaye de mettre ça en place. La maison est pour l'instant disponible. On est en contact avec des personnes déjà intéressées, mais en tout cas, il reste des champs.
Oui.
Donc, ce serait... excusez-moi, je prends la parole. Donc, ce serait une sorte de colocation intergénérationnelle. Et est-ce que vous ciblez des personnes qui sont beaucoup plus jeunes ou des personnes qui sont par exemple dans la quarantaine, dans la vingtaine, ou peu importe?
Non, alors effectivement, c'est une colocation intergénérationnelle. Du côté des jeunes, c'est étudiants jeunes actifs de 18 ans à 28 ans. Du côté des seniors, en toute transparence, on cherchait des personnes de plus de 70 ans, mais finalement, on se dit qu'on peut aussi être isolé à partir de 65 ans ou même 20 ans. On cherche quand même des personnes au moins à la retraite, donc à partir d'une soixantaine d'années.
Ce serait du coup une bonne entente envers deux types de personnes qui sont assez différentes en termes d'âge, évidemment, et en termes de génération. Est-ce qu'actuellement, vous avez trouvé du coup les personnes jeunes? Peut-être que vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez déjà trouvé des personnes jeunes ou des personnes âgées? Il me semble que c'était 3 personnes âgées et 3 jeunes que vous cherchez.
Tout à fait. Alors, on est en contact avec différentes personnes intéressées qui sont en train de réfléchir sur le côté des seniors parce que c'est une décision importante parce que souvent, c'est leur dernier déménagement avant peut-être l'étape suivante qui peut être la maison de retraite. Nous, ce qu'on peut mettre en place, en tout cas pour les seniors, c'est une vraie solution pour ceux qui ne peuvent plus habiter seuls mais qui ne sont pas prêts à aller en EHPAD. Du côté des jeunes, on a un jeune qui est en train de finaliser la signature de travail. On en recherche à la recherche de autres jeunes et de 2 seniors.
Donc de 2 jeunes et de 2 seniors, du coup, vous êtes en train de chercher actuellement. Quand se produira votre tournage justement pour le documentaire, pour qu'on puisse nous aussi découvrir ce que ça fait de voir des personnes totalement différentes en termes de génération se rencontrer et partager le même lieu de vie?
Oui, alors la mise en place du documentaire, c'est toujours un processus relativement long. Je pense que une décision peut être prévue dans un an, je dirais, parce que là, on est sur la mise en place. On va filmer la mise en place de la colocation, mais on ne va pas filmer le quotidien des habitants. Voilà, les réalités, on ne va pas venir tous les jours leur coller une caméra au visage la mise en place. Mais les premiers mois, comment se passe l'aménagement, comment les liens se tissent, les accords, les points communs qui sont trouvés entre les uns et les autres, leur façon de vivre ensemble. Sur les 6 mois, il y aura une trentaine de jours effectifs de tournage. Ce que je peux vous signaler aussi, c'est qu'on recherche un jeune ou un senior d'ailleurs qui pourra faire quelques images de la maison. Parce que comme on aura une trentaine de jours de tournage, on loupera forcément des moments peut-être très forts et intéressants entre les locataires. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des images un peu de l'intérieur, des moments de vie. Après, voilà, le temps de faire le montage et d'organiser la diffusion, ce sera disponible sur Canal+ dans un an.
Oui, parce que le but, ce n'est pas forcément de filmer la vie quotidienne des participants, c'est juste de montrer que c'est possible de faire participer un jeune et une personne senior dans un même cadre de vie.
Exactement. Et nous, notre but, et c'est en ça que c'est du documentaire, c'est d'intervenir le moins possible dans leur façon de vivre. Pour le choix des jeunes et des seniors, c'est eux qui vont se choisir entre guillemets, comme dans la vraie vie. Là, si on a deux personnes qui ménagent et qui une troisième qui vient vers nous parce qu'elle est intéressée, elle prend un café avec les deux autres et c'est ensemble que chacun et chacune voit la suite, comment la suite pourrait s'opérer. Pareil pour le quotidien, une fois que les psychologues seront entre eux, le but c'est qu'ils puissent mettre en place une charte quant à la répartition des tâches ménagères, des courses, mais c'est vraiment eux qui vont décider du mode de vie et nous, on n'est pas du tout interventionniste à ce niveau-là. Même par exemple pour les animaux de compagnie, on n'a pas de règles spécifiques. S'il y a un jeune qui veut arriver avec son chat et qui devient la mascotte de la colocation, s'il n'y a pas d'allergie du côté des autres locataires, nous, pas de problème. C'est vraiment eux qui font leurs règles.
Donc c'est eux qui choisissent leur mode de vie, comment ils fonctionnent, du moment que les autres sont d'accord. Alors petite question justement, en parlant de mode de vie, du coup pour faire les courses, aménager l'appartement, question qui est revenue assez souvent dans l'équipe, c'est est-ce que vous versez une sorte de salaire ou versez de l'argent vers les personnes qui sont dans la colocation ou c'est eux-mêmes qui trouvent l'argent pour subvenir à leurs besoins?
Non, alors c'est vraiment eux qui trouvent l'argent, en gros. Si vous voulez, pour vous donner une idée de la démarche, c'est comme si nous, on venait filmer une colocation qui était déjà en place dans la vraie vie, entre guillemets, sauf que là, comme c'est un dispositif relativement inédit, on participe à la mise en place, on donne le coup de pouce pour la mise en place, mais c'est un déménagement pour la vraie vie, donc les gens devront payer malheureusement leur loyer, après qu'ils sont éligibles aux APL, et du côté des jeunes et du côté des seniors, et effectivement, qui devront faire leurs courses avec leur salaire. Enfin, voilà, nous, on met à disposition la maison, on fait toute la rencontre, mais ensuite, tout se fait vraiment sans nous.
Donc, vous avez dit que vous avez 3 seniors et 3 jeunes. Et est-ce que vous, derrière, vous êtes une grosse équipe ou vous êtes vraiment en petite équipe?
Non, on est une société de production relativement petite. On est 5 principalement, dont la productrice Caroline Delage, qui a donc monté la boîte de production. On travaille avec Maïssam et Gabriel, qui nous aident à trouver, à faire les recherches, à développer le dossier à propos de cette colocation. Et Alix, qui est la production, qui elle gère principalement les tournages. Donc vous voyez, c'est une équipe très réduite.
Une équipe, un effectif assez réduit pour un tournage assez important pour pouvoir montrer les liens intergénérationnels qui peuvent se créer, même avec des temps assez compliqués en ce moment, je dois l'avouer. Mais c'est le but du coup de votre émission, du coup qui c'est le but, parce que j'ai pas d'autres mots à dire.
Vous avez dit que vous cherchez encore deux jeunes et deux seniors, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Si quelqu'un qui veut participer à ce projet, est-ce qu'ils peuvent postuler ou envoyer un mail ou...
Oui, c'est par exemple les étudiants qui nous écoutent peuvent participer.
Oui, tout à fait. Même simplement pour demander des informations dans un premier temps. Je pourrais échanger avec eux au téléphone, leur donner plus de détails parce que c'est toujours plus simple d'échanger de... Ils peuvent envoyer un mail, je peux vous envoyer le mail de contact, mais c'est la coloc, chez @autableauprod.com. La coloc, @autableauprod.com.
Parfait, parfait. Donc pour les étudiants qui nous écoutent sur Radio Campus, vous pouvez postuler à cette adresse mail-là pour pouvoir participer à une vie intergénérationnelle.
La coloc, @autableauprod.com.
C'est ça.
Et
ben, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions, de vous avoir parlé de cette émission et d'être venu sur Radio Campus. Oui.
Merci beaucoup.
Et nous, on continue en musique avec Eternal Comeback de Alphonse. et vous êtes toujours dans Écoute ta fac, il est midi 23 et on continue avec de la musique, on continue avec Cold Comfort de Laudanum.
Destroy it all.
Et tout de suite, c'est la chronique de Mathéo. Mathéo, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans Radio Campus Orléans et je vais vous décrire quelques histoires un peu horrifiques sorties tout droit d'un univers que j'adore, que j'apprécie, les SCP. On commence avec SCP-682, une créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente et a été observée, discutons de manière complexe avec SCP-79, un autre SCP que je vous décrirai dans une prochaine émission. Au cours de leur bref contact, SCP-682 semble vouer une haine profonde à toute forme de vie. Et l'a exprimé dans plusieurs interviews, à croire qu'il n'y a pas que nous qui faisons des interviews, au cours de son confinement. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une vitesse grandissime et de très bons réflexes. Même si les niveaux exacts varient en fonction de son état, le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant, tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qui l'ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables de toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobile disponibles et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussites sont au nombre de 6. Maintenant, nous allons passer à un entretien entre un docteur et la bête. Maintenant, pourquoi avez-vous tué ces fermiers ? Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer toute cette zone qui vous remettre dans... Pardon ? Parlez plus fort. Rapprochez le micro.
Ils étaient...
Sa gorge est défoncée, mec. Regardez-le, il ne parle pas.
Ils étaient... répugnants.
À ce jour, aucun autre mot n'est sorti de la bouche de ce SCP, le rendant tout aussi mystérieux et complexe. Merci d'avoir écouté cette petite chronique. Évidemment, la suite nous attend.
Et la suite, ce sera la deuxième histoire juste après avec une pause musicale. Tout de suite, c'est Fix Me Up de Slow.
Rising around. replaced by his mind. It's in the twilight when the magic can unfold. So come and listen as the stories will be told.
Smile is a new coming post-punk band based in Cologne, Germany. Their debut album, Price of Progress, just came out on the 13th of October on Vienna-based indie label Zilu Records. Their hit single Doohickey saw the light of day a bit earlier than that. It was released in July, together with a fun music video that shows the singer Ruby strolling and dancing around a town, peacefully wrangling with someone of her size, as you do.
Hey, this is Ruby from Smile, and you're listening to Doohickey from our debut album, Price of Progress.
Life's most Indire, Independent Radio Exchange Network. Featured song. Co-funded by the European Union. More at indire.eu.
Écoute ta fac. Radio Campus.
Et donc tout de suite, c'est la deuxième histoire de Mathéo. Mathéo, je te laisse la raconter.
Et on est toujours dans un thème horrifique, évidemment. Et je n'ai pas fini avec l'horreur, parce que maintenant nous allons parler de SCP-96, qui est de classe Euclide. Ah oui, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais les classes Safe, Euclide et Keter représentent les niveaux de confinement des monstres, qui sont plus ou moins difficiles à confiner, ou plus ou moins dangereux. Safe, ça veut dire qu'ils sont faciles à confiner, qu'ils ne sont pas très dangereux. Euclide, c'est un peu plus difficile à confiner. Et il faut suivre une certaine procédure afin de ne pas entrer dans une période assez compliquée. Et enfin, Keter, c'est une menace pour toute l'humanité, voire quelque chose ou quelqu'un difficile à confiner. Maintenant, revenons à SCP-96, qui est de classe Euclide, comme je vous le disais. SCP-096 doit être maintenu dans sa cellule, un cube en acier hermétique de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou d'appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de SCP-96. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-96 dans sa cellule. Toute photo, vidéo ou enregistrement présentant des similarités avec SCP-96 sont strictement interdits. SCP-96 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun de longueur approximative de 1,50 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-96 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux, qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si, oui ou non, SCP-96 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée, et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-96 est normalement extrêmement docile, les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrant qu'il passe le plus clair de son temps à errer près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-96, que ce soit directement ou indirectement via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-96 cachera son visage avec ses deux mains et se mettra à hurler, pleurer, marmonner de façon incompréhensible et indolore. Approximativement 1 à 2 minutes après sa première observation, SCP-96 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désignée comme SCP-096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et 110 km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-96-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-96. La position actuelle de SCP-96-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-96 et il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-96-1. Note, cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique, de dessin, de fan art ou autre. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-96-1, SCP-96 procédera à l'exécution et je vous laisse deviner la suite. De ce dernier, dans 100% des cas, aucune trace de SCP-96-1 n'a pu être trouvée ou détectée. SCP-96 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et de devenir à nouveau docile. Il essaiera ensuite de retourner à son habitat naturel. À cause de la problématique de son cas et d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et à la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Le docteur Zéro a également adressé une requête pour la supervision immédiate de SCP-96. L'ordre de suppression a été approuvé et doit être exécuté par le docteur Z, qui a fait un enregistrement avec le capitaine Zéro, qui se trouvait lors d'un incident. Heure 4, zone de recherche B. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce qui est capable de cette saleté, à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez de la chance. S'ils vous racontent toute l'histoire, ils nous ont juste dit de le neutraliser et de le marquer. Ils nous ont rien dit sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Pouvez-vous me décrire la mission, s'il vous plaît ? Ouais, désolé. On avait deux hélicos. Un avec mon équipe et l'autre en soutien de Zulu 9-B et du Docteur Z. On a repéré la cible à peu près deux clics au nord de notre chemin. Et je suppose qu'il ne se dirigeait pas dans notre direction. Sinon, il nous aurait massacrés. Là. Votre rapport mentionne que SCP-96 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins 96 degrés ? En fait, non, il faisait moins 88. Et oui, il n'avait pas l'air d'avoir de vêtements et n'avait pas l'air d'avoir froid non plus. Quoi qu'il en soit, on a atterri. Approché la cible et le caporal B s'est préparé pour lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le docteur Z a appelé. J'ai fait demi-tour pour répondre à son appel, et c'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner, et toute mon escouade l'a vue. C'est à ce moment que SCP-96 est entré dans un état de stress émotionnel, intense. Ouais. Désolé. Rien que d'y repenser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais. J'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade. Ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît ? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal. Ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer et il a soulevé le caporal, lui a arraché une jambe. Oh, bon Dieu. Il nous implorait de venir l'aider. Et tout ça, on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible, mais balle après balle, ça lui faisait rien. J'ai failli y passer quand il a commencé à oublier. C'est à ce moment que vous avez donné et ordonné l'utilisation d'un lance-roquette. Ouais, une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP-96 s'était fait la malle. J'ai jamais vu quelqu'un déchirer un blindage de tank comme ça. C'est comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il eu des dégâts significatifs infligés à SCP-96 ? Il n'a même pas vacillé. Il a continué à massacrer mon escouade, mais la moitié du torche arraché. Mais il réagissait aux dégâts ? Si c'était le cas, il n'a rien montré du tout. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais il n'avait l'air d'avoir rien remarqué. Par contre, son squelette était intact, et il continuait de mettre en pièces mon escouade. Donc aucun dommage sur la structure osseuse. Vous direz combien de balles ont été tirées sur le sujet ? À bas mot ? Un millier ? notre mitrailleur l'a arrosé avec son GAU-19 pendant au moins 20 secondes. 20 secondes. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour ce qu'il a à faire. À ce moment, c'est à ce moment-là que Zulu 9-B est arrivé ? Ouais. Et mon escouade était morte. Zulu 9-B a réussi à lui mettre un sac sur la tête. Et il s'est juste assis par terre. On est montré dans l'hélico. On l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha, ou je ne sais pas qui d'autre, je ne sais pas, pensait que je devais continuer à vivre. C'est horrible. Nous avons tenu une représentation artistique du visage de SCP-96. Voulez-vous la voir ? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non, juste... non. Très bien. Je pense que nous avons terminé. Merci, capitaine. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-96 dès que possible. Une équipe mise ensuite sur le coup a exigé de faire rencontrer deux SCP, dont SCP-99, que je vais vous présenter en bref. SCP-999 semble être une masse importante, amorphe, gélatineuse, de vase orange translucide, pesant environ 50 kg, avec une consistance similaire à celle du beurre de cacahuète. La taille et la forme du sujet changent constamment, bien que la plupart du temps, sa forme est la taille d'un grand fauteuil pouf. La composition de SCP-999 est à base d'huile, mais consiste en une substance inconnue de la science moderne, à part une mince membrane, transparente, entourant la masse orange. Le sujet ne semble pas avoir d'organes, à proprement parler. Les tempéraments du sujet est généralement décrit comme enjoué et ressemble à un chien. Quand l'on approche SCP-999, il réagira le plus souvent avec une très forte excitation, se glissant vers la personne la plus proche et en sautant sur elle, la serrant dans ses bras avec une paire de pseudopodes tout en touchant le visage de la personne. Avec un troisième pseudopode, tout en émettant des bruits de gargouillis, le roucoulement aigu, la surface de SCP-999 émet une odeur agréable qui diffère selon les personnes avec lesquelles elle est interagie. Les odeurs sont généralement décrites comme du linge frais, du chocolat ou bien des roses. Le simple fait de toucher la surface de SCP-99 provoque une euphorie immédiate qui s'intensifie au fur et à mesure de la rencontre. C'était tout pour ce magnifique SCP, pour cette magnifique histoire.
Je pense que cette histoire va bien avec le temps qui fait aujourd'hui dehors un peu gris, un peu froid. On va se remonter un peu le moral avec Crawl d'Oscar Lang, une belle musique.
Oh,
Et c'était Golden Throne. C'était super. C'est bientôt la fin de l'émission.
Yes.
On a toujours Fatine. Mathéo, t'es toujours là ?
Toujours présent, toujours là.
Pour, tu t'es remis de ton histoire ?
Ah oui, bah, j'adore les SCP.
Est-ce que t'en as d'autres pour nous, à nous proposer pour les prochaines, mais autres que SCP par exemple, pour donner un peu envie aux auditeurs ?
Évidemment, j'ai d'autres, outils sous la manche, évidemment. Il n'y a pas que les SCP. J'ai par exemple la perceuse qui sont des légendes urbaines japonaises, des légendes urbaines espagnoles, mexicains, coréens.
Parce que tu as fait 4 épisodes des SCP.
C'est vrai. Il faut changer un peu.
Parce que tu vas pas faire les 5000, tu m'as dit qu'il y en avait 5000.
Oui, il y en avait 5000 à peu près. Voire plus. Mais on va quand même.
En sachant que Halloween arrive bientôt, donc la période va être passée. Après, tu nous feras des histoires de Noël.
Ah, je vais essayer d'en trouver, mais il y a moyen.
Des histoires d'amour de Noël.
Oula.
Merci de nous avoir suivis sur Écoute ta fac. Cet après-midi, vous retrouverez de 15h à 16h Le Moulin à Parole. De 16h à 17h, Victor Dancefloor. Et ensuite, ce sera moi pour les turbulences de 17h à 18h. Et puis le Roll Mobs du rock de 18h à 19h. Merci à tous.